paraît qu'il faut pas manger trop sucré. Hein. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est bien de manger du poisson comme les Japonais. Ensuite, il y a le côté local et artisanal. Hein, avec la belle Illoise, par exemple, on sait qu'on se fournit chez une PME bretonne qui pêche en Bretagne. Enfin, c'est bon pour la santé. Hein. C'est un concentré de vitamines, d'oméga 3 et de protéines. Il y en a deux fois plus que dans les œufs.
C'est vrai qu'il faut y penser le matin. Une bonne tartine de beurre, des sardines et on est plein d'énergie pour la
bon
journée.
Appétit.
Alors ça, c'est la boîte de sardines à moitié pleine, complimentée par David Barou, mais la boîte à moitié vide a des problèmes.
Ah bah oui, le problème, c'est que le succès commercial se traduit pas automatiquement au succès économique. D'abord, à cause du réchauffement climatique. Quand la température progresse, même faiblement dans la mer, cela impacte directement le plancton et indirectement la taille des sardines. Elles rétrécissent. Il y a peut-être un peu de surpêche qui pèse sur la quantité, mais le problème principal, c'est plus la qualité. Car quand les sardines sont plus petites, elles sont plus fragiles, elles sont plus difficiles à manipuler et il faut en mettre plus par boîte. Il faut du coup plus d'heures de main-d'œuvre et comme les coûts salariaux sont élevés en France, cela nuit gravement à la compétitivité de nos rois de la boîte de conserve qui ont du mal à résister à la concurrence internationale qui s'est déjà imposée sur le marché, par exemple, de ce qu'on appelle les marques distributeurs. Sur le bio, les Français s'en sortent pas si mal que ça. En creux, ça doit interpeller la France qui a besoin de trouver un moyen de soutenir les PME implantées en région qui emploient quand même une main-d'œuvre locale parce que cette industrie au pic de la saison, emploie des milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a une demande, il y a une infrastructure pour l'offre des pêcheurs aux industriels, mais on est face quand même à un risque de délocalisation.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Guillaume.
Bonjour David.
Le premier tour des municipales aura lieu dans tout juste 2 mois. Serviront-elles ces municipales de test en vue de la prochaine présidentielle ?
Par définition, tout scrutin, même local, recèle des leçons nationales. Ce sera donc vrai cette année dans la mesure où ces municipales seront à la fois la dernière élection au suffrage universel avant la présidentielle et qu'elles auront lieu pile 1 an avant ce scrutin phare. Ce qui est assez rare hein, dans la Ve République, c'est arrivé une seule fois en 2001. 1 an avant le choc surprise Chirac-Le Pen. Et souvenez-vous, à l'époque, la droite avait perdu Paris et Lyon, mais avait récolté une moisson importante de villes moyennes, comme quoi les leçons des municipales ne sont pas forcément univoques. Et ce sera encore le cas cette fois, et de manière plus forte encore, car en fait, le paysage politique local ne correspond en rien au paysage national. Au niveau national, hein, on sait que le RN est plus puissant que jamais, mais il n'administre que très peu de villes, et ses espoirs emblématiques sont très limités, à part sans doute à Toulon. LFI est également très fort, mais n'a pas de grande mairie, et ne devrait pas en gagner beaucoup. Et inversement, LR et le PS restent de grandes forces territoriales, alors qu'à l'Assemblée nationale, ils sont archi-minoritaires. Alors, il y aura évidemment des mouvements électoraux, mais comme toujours, les sortants partent avec a priori une prime, ce qui fait qu'on ne pourra pas dire que les municipales sont là préfiguration de la présidentielle.
Pourtant, tous les partis annoncent en ce moment leur liste de candidats et s'apprêtent à lancer leur campagne.
Ah oui, hein, c'est quand même leur rôle. Et puis, il y a quand même des enjeux politiques forts. Hein. Bien sûr, si Paris et Lyon basculaient, la droite et le Bloc central revendiqueraient ces victoires. Si les Verts perdent un grand nombre des grandes villes qu'ils ont acquises en 2020, ce sera aussi un signe. De même, les scores du RN, en particulier à Marseille, seront importants pour un parti qui a toujours eu du mal à se construire une assise locale. Mais quand on regarde ces grandes batailles qui s'annoncent, on voit que ce sont avant tout des logiques particulières qui dominent. À Paris, il y a une forte personnalisation autour de la figure de Rachida Dati qui dépasse largement la sphère des partis. De même, à Lyon, on a une municipalité verte qui est mal partie et s'il y a une dynamique d'alternance qui semble s'imposer, on voit bien que ça n'est pas autour de LR ou autour de Renaissance, mais bien autour de la figure charismatique de Jean-Michel Aulas. Et puis à Nice, hein, on assiste à une guerre personnelle entre Christian Estrosi et Éric Ciotti, pas une bataille partisane entre un maire à la fois LR et Horizon et le président de l'UDR.
Et à ce titre, je vous conseille l'excellent livre de Jean-Baptiste Forêt, Les frères ennemis de la côte, c'est paru chez Plon. C'est pas mal du tout sur la guerre fratricide entre Christian Estrosi et Éric Ciotti. Et pour Emmanuel Macron, ces municipales ont-elles aussi un enjeu ?
Écoutez, on dit souvent que les élections intermédiaires servent de vote sanction contre le pouvoir en place. Mais pour sanctionner Macron, encore faudrait-il qu'il y ait des maires macronistes à sanctionner. Or, il n'y en a pas. Eh bien, ça aussi, ça empêchera de tirer des leçons trop nationales des municipales.
Guillaume Tabar, éditorial, l'a retrouvé sur lefigaro.fr et évidemment sur la chaîne YouTube de Radio Classique et notre application. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser pour nous écouter. À demain, Guillaume. Et maintenant, l'invité de la matinale. Alors que la guerre en Ukraine continue, que la semaine prochaine sortira au cinéma Le Mage du Kremlin, qui raconte les souvenirs d'un conseiller de Poutine et l'ascension irrésistible du président russe, alors que trois quarts des Français se disent inquiets ce matin de la désinformation étrangère, selon le baromètre annuel du journal La Croix, je reçois un directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Il publie aux éditions du CERF « Penser comme Poutine, c'est une menace pour notre démocratie ». Il nous met en garde contre notre mollesse face au président russe, face à la diffusion à bas bruit de sa haine de la démocratie et de l'Occident. Victor Stokowski, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Votre livre ne consiste pas à entrer dans les pensées de Vladimir Poutine, mais d'expliquer pourquoi sa vision du monde trouve des relais en Occident, en France, mais également en Europe, et même à la Maison-Blanche, des relais qui vont des extrêmes jusqu'à des experts qualifiés, indulgents et tout à fait de bonne foi. Commençons par le commencement, puisque ce livre s'appelle « Penser comme Poutine, menace pour notre démocratie ». Quelle est cette vision du monde que Vladimir Poutine essaie de nous inoculer goutte à goutte ?
Cette vision dépeint un monde où il n'y a aucune différence entre les démocraties et les dictatures. Les démocraties et les dictatures seraient pareillement viles et manipulatrices. Les unes et les autres seraient toujours dirigées par des oligarchies cyniques. Les politiciens seraient tous semblables. Corrompus, ils s'emparent du pouvoir pour en tirer un maximum de profits personnels. Partout, ils contrôlent les médias pour tromper leur peuple. Motivés par l'appât du gain et de la puissance, ils s'acharnent tous à étendre leur sphère d'influence et à conquérir de nouveaux territoires. C'est un monde où les forts oppriment toujours les faibles et où aucun droit international ne peut modérer les appétits prédateurs de puissants, où la morale cède toujours devant l'intérêt. On peut se demander si cette vision est vraie. Pour ceux qui adhèrent, elle est évidente et véridique. Seulement, la question de sa vérité ne se pose pas dans l'absolu, contrairement à la question de savoir si la Terre est plate ou ronde. Sans être vrai au sens objectif, il risque de devenir vrai si tous les responsables politiques se persuadent que le monde doit être impérativement organisé selon de tels principes. S'ils consentent à abandonner les efforts pour construire les rapports internationaux en accord avec les droits, la morale et une coopération avantageuse au grand nombre. Il s'agit donc d'une vision potentiellement autoréalisatrice. Elle peut devenir vraie à la condition que la majorité l'accepte comme une fatalité. Et si la majorité se persuade que la Terre est plate, la Terre ne va pas changer de forme. Par contre, si la majorité se persuade que la politique internationale est l'arène d'une inévitable lutte des forces brutes pour l'influence, la puissance et les profits, tous se mettront à agir conformément à ces principes. Et nous, dès lors, nous ne vivrons plus dans les mêmes mondes.
Victor Stokowski, est-ce que cette vision du monde a changé depuis l'URSS ? Est-ce que Vladimir Poutine a muté ? Ou est-ce que un ex-agent du KGB pensait exactement ce que pense Poutine aujourd'hui ? Ou en tout cas, cette vision du monde a-t-elle changé ? Ou finalement, c'est celle de l'URSS d'autrefois ?
C'est toujours la même vision du monde. Ma première enquête ethnographique portait sur la police secrète en Pologne. Des gens que j'ai côtoyés, qui vivaient en vase clos, et ces gens avaient une idéologie officielle, celle du marxisme, du communisme, mais une idéologie officieuse, celle du monde comme l'arène où s'affrontent les prédateurs.
Alors comment vous expliquez que la propagande russe ait trouvé des relais en France, même si depuis l'invasion de l'Ukraine, évidemment, les pro-Poutine sont moins exubérants et moins déchaînés? Qu'est-ce qui fait que, petit à petit, on se dit « mais un pouvoir fort, c'est pas si mal, mais si on faisait comme Trump ou comme Poutine, eh ben, on y arriverait davantage ». Bref, comment vous voyez cette mise en cause tranquille, douce, émergée en France, mise en cause de la démocratie?
Alors, les thèses de la propagande poutinienne s'infiltrent en France et partout ailleurs en Europe par deux portes largement ouvertes. D'un côté, il existe des relais de la propagande poutinienne sur intérêt, relais financés par Moscou et dirigés par Moscou, et moins connus et plus énigmatiques, l'attitude de ceux de nos compatriotes qui, par conviction, reprennent certaines thèses importantes de la propagande du régime russe. Ils parlent comme Poutine, non pas parce qu'ils sont rétribués par Poutine, mais parce qu'ils pensent comme Poutine. Et ces gens-là ne sévissent pas sur TikTok ou sur Twitter, très polissés, très éloquents, et ils sont souvent conviés à s'exprimer dans les grands médias français par d'honnêtes journalistes qui peinent à comprendre qu'ils offrent une tribune à des porte-paroles, non pas de Poutine, mais de la vision du monde poutinienne, de la vision du monde que les dictatures cherchent à nous imposer.
Victor Stokowski, comment on repère le discours poutinien? Comment on le repère? Comment on entend cette petite musique, sachant que le débat démocratique, c'est la possibilité de voir toutes les analyses sur l'éventail du débat et d'entendre toutes les analyses possibles. Ça va de la réelle politique qui dit bah voilà, ils sont très forts, ils avancent, voilà, la démocratie est en danger, etc., etc. Comment on entend, comment on repère un discours qui va dans le sens des intérêts poutiniens?
Toutes les voix sont acceptées dans une démocratie, sauf celles qui sont porteuses de mensonges. Alors, comment reconnaître un discours pro-poutinien? Le principal indice est la thèse selon laquelle la responsabilité de l'invasion russe de l'Ukraine revient surtout aux Occidentaux. Les pro-poutiniens sont persuadés que l'Occident a véritablement menacé l'existence même de la Russie, que la Russie ne fait que se défendre contre l'expansion de l'OTAN. Ils estiment que la dictature poutinienne est l'œuvre des Occidentaux. C'est notre prétendue hostilité envers la Russie qui aurait poussé un Poutine initialement démocrate, a adopté une politique de plus en plus autoritaire, nationaliste et anti-occidentale.
Quelles sont les racines de ça? C'est la mauvaise conscience occidentale, c'est cette capacité à prendre sur les épaules tous les malheurs du monde, de se dire on a dominé le monde et on l'a mal dominé, on a fait des guerres et on a fait des mauvais traités, et voilà, nous payons les fautes de quart de ces régimes dictatoriaux.
Nous nous trompons très souvent, à la fois sur les régimes poutiniens et sur les autres dictatures, et parce qu'il nous est difficile de les comprendre. Les dictatures, ce sont des sociétés fermées, dont les modes de gouvernement restent opaques, voire secrètes. Et nous ne savons pas comment sont réellement gouvernées la Russie, la Chine ou l'Iran. La principale source dont nous disposons pour connaître ces dictatures réside dans les discours que ces régimes tiennent sur eux-mêmes. Et ces discours sont faits essentiellement des mensonges.
Et pourtant, on est dans une phase très critique, à la fois vis-à-vis de Trump, les gens sont quand même de plus en plus informés, il y a un discours critique sur l'évolution du régime chinois, depuis toujours, et aujourd'hui sur l'évolution du régime de Donald Trump. Donc on ne peut pas nécessairement dire qu'il y a une totale passivité ou une totale indulgence, ou que les gens ont le cerveau lavé par la propagande russe.
C'est loin d'être le cas. Et nous avons à notre disposition, dans les sociétés démocratiques, et toutes les informations dont nous avons besoin pour comprendre ces régimes. Seulement, comme tous les mondes le sait, les Français ne lisent plus les journaux, n'écoutent plus la radio, ou de moins en moins, ne regardent plus la télé. Beaucoup de jeunes s'informent sur la politique internationale en écoutant les influenceurs sur TikTok.
Et pourtant, ce sondage de la Croix dit que 62% des Français sont inquiets par la propagande étrangère, inquiets de la propagande étrangère. Et maintenant, il y a deux fronts. Il y a le front russe, si j'ose dire, poutinien, et puis il y a le front Trump, c'est-à-dire que Trump a repris presque à son compte une vision du monde qu'il partage avec Vladimir Poutine. Comment expliquez-vous que la première démocratie au monde se soumette à cette pente ?
Et Donald Trump s'entend très bien avec Poutine parce que tous les deux, ils adhèrent à la même vision du monde. Pour l'un comme pour l'autre, il n'existe que des grandes puissances, leurs élites et les territoires que ces élites contrôlent. Donc, le monde est l'arène où s'affrontent des mâles dominants. Et Alexandre Dugin, idéologue russe connu pour ses positions ultranationalistes, avait de quoi se réjouir lorsqu'il concluait, il y a quelques mois, je les cite, « Trump a modifié l'idéologie américaine et sa nouvelle idéologie correspond étonnamment à la nôtre. »
Étonnamment. Victor Stokowski, quel effet ça produit sur notre démocratie, la porosité aux idées défendues par Vladimir Poutine? Ça la change de l'intérieur?
Eh bien, l'offensive idéologique russe s'inscrit dans le cadre de l'affrontement auquel nous assistons de nos jours entre les régimes démocratiques de plus en plus fragiles et les régimes autoritaires de plus en plus agressifs. L'une des armes de l'offensive russe est la vision du monde que sa propagande cherche à nous inculquer. Et c'est une vision du monde où prime la force brute, où les hommes et les États doivent se résigner à leur impuissance face à la fatalité des grandes lois déterministes qui sont au fond celles de la jungle. Les hommes et les États ne doivent pas résister, ils doivent capituler pour devenir eux-mêmes un instrument de ces lois. Et c'est le régime poutinien qui décrète ces lois, c'est devant lui qu'il faut s'incliner. Et les pro-poutiniens occidentaux y consentent, non pas qu'ils soient nécessairement récompensés pour les faire, mais parce qu'ils ont été convaincus que leur seul choix face à la fatalité est de se reconnaître vaincus. Ils finissent par penser comme Poutine souhaite que nous pensions tous.
Un dernier mot sur, je dirais pas l'indulgence, mais parfois le retard à l'allumage des démocraties pour condamner très fermement, par exemple, ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Certains disent, on a été un peu en retard à l'allumage. Pourquoi, d'après vous? Qu'est-ce qui fait que, face aux dictatures, les démocraties sont souvent très en empathie, sans partager les valeurs?
Les opinions publiques occidentales, depuis bien longtemps, depuis le début du XXe siècle au fond, et trouvent toutes sortes d'excuses et de justifications aux régimes dictatoriaux. Ces justifications proviennent précisément de la propagande de régimes dictatoriaux qui visent à nous convaincre que ce régime serait tantôt émancipateur, tantôt populaire, tantôt inévitable et dans tout cas légitime. Et pour porter un regard lucide sur ces régimes, il faut d'abord sortir de l'espace de désinformation dans lequel leur propagande cherche à nous enfermer.
Victor Stokowski au micro de Radio Classique. Merci à vous pour ces éclairages. Pensez comme Poutine, une menace pour nos démocraties. C'est paru aux éditions du CERF. À bientôt, Victor Stokowski.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
La lecture de la presse ce matin, Hervé, bonjour.
Bonjour.
Vous inspire cette question. Peut-on vraiment tout acheter?
On connaît la réponse de Donald Trump, positive bien sûr, mais on sait aussi que le président américain peut préférer prendre sans payer. Après son coup de force au Venezuela, Trump veut s'emparer du Groenland. Le Monde raconte la sortie de la réunion d'hier à la Maison-Blanche. Les ministres des Affaires étrangères du Danemark et du Groenland venaient de s'entretenir avec le vice-président américain et le secrétaire d'État Marco Rubio. Leur visage était grave. Derrière les expressions convenues, le ministre danois laissait transparaître une forme de détresse devant une administration américaine hostile. Reconnaissant son impuissance à changer la position de ses hôtes, le même ministre danois a dit « Il est clair que le président Trump a le souhait de conquérir le Groenland ». Plusieurs sites d'information américains, dont celui de la chaîne NBC News et du quotidien britannique The Independent, évoquent un prix de 700 milliards de dollars. C'est cher, mais un pays, même couvert de glace, et ses 56 000 habitants ont-ils vraiment un prix ?
Le magazine L'Express, justement, a demandé à deux experts d'estimer la valeur du Groenland. Difficile d'arriver à un résultat et un chiffrage précis.
Deux enseignants à Sciences Po, l'un analyste financier, l'autre chef d'entreprise, ils tentent de répondre à cette question posée donc par L'Express. En tant qu'actif, combien serait valorisé le Groenland par un investisseur rationnel ? Ils indiquent que le PIB du pays avoisine 3,3 milliards de dollars et que son économie dépend de la pêche et des subventions danoises. Quant aux richesses minières convoitées par Donald Trump, elles sont difficiles à estimer car aucune mine ni aucun puits de pétrole n'est exploité au Groenland. Les deux experts invoquent tout de même à ce propos des évaluations de quelques centaines de milliards de dollars. Il s'agit donc de l'estimation des richesses minières du Groenland. Mais on peut aussi considérer, d'après eux, que la position géographique du Groenland représente un intérêt stratégique majeur, donc une valeur économique hors norme, un peu comme si la Joconde était mise sur le marché, disent-ils. Dans ce cas, conclut-il, le territoire du Groenland pourrait valoir jusqu'à 1000 milliards de dollars.
Le Parisien aujourd'hui en France consacre sa une, lui, à la progression spectaculaire de la malbouffe dans les villes périphériques.
Un autre aspect de la menace américaine à coups de hamburgers, et là encore, tout est affaire de prix. Il n'y a pas que des sandwichs américains, pour être honnête, il faut aussi compter les kebabs, les tacos, le poulet frit et quelques autres friandises. Pour 10 euros, on peut manger un peu tout ce qu'on veut. On sait que c'est pas bon pour la santé, mais je préfère ça au crous, à vous, Salomon, 18 ans, étudiant à Cergy. En France, écrit le Parisien, la progression des enseignes de restauration rapide a décollé ces dernières années. C'était 40 000 établissements en 2019, c'est 51 000 aujourd'hui. Statistique sidérante, 42,5% des restaurants en France sont des fast-food. Dans certaines villes, les fast-food représentent plus de 70% de l'offre de restauration. C'est 77% à Argenteuil, la ville où il y en a le plus, 75,5% dans les quartiers nord de Marseille, 75% à Évry. Autre statistique directement liée, chez les 18-24 ans, l'obésité a été multipliée par 4 en 30 ans.
Je pose quand même cette question, est-ce qu'un kebab avec du bon pain, de la bonne viande, sans frites et avec des crudités, c'est mauvais pour la santé ? C'est pas sûr. Je vous laisse réagir sur radioclassique.fr. On apprend en lisant les échos qu'un litige oppose depuis 20 ans la France à la Commission européenne au sujet de l'exploitation des barrages hydrauliques.
Les grands barrages dressés sur nos fleuves produisent de l'électricité, mais l'Europe produit de la réglementation. Pour la Commission européenne, les concessions consenties aux exploitants des barrages devraient être soumises à la concurrence. Or, EDF en exploite 300 sur 340 en France et l'entreprise publique n'aurait pas les moyens de débourser des dizaines de milliards d'euros pour les racheter si ces barrages étaient attribués sur appel d'offres. Selon les échos, un accord de principe a été trouvé et deux députés français ont déposé au Parlement une proposition de loi dont l'objet officiel est de relancer l'investissement dans l'hydroélectricité, mais qui va surtout permettre de réattribuer pour 70 ans les barrages aux concessionnaires actuels. Nos barrages ne seront donc ni à acheter ni à vendre, et c'est tant mieux, car l'hydraulique, apprend-on dans les échos, est notre première énergie renouvelable. On lui doit 13% de la production d'électricité.
On termine avec un livre qui fait scandale. Un manuel destiné aux lycéens contenait une phrase plus que douteuse sur les attaques du 7 octobre 2023 en Israël.
Le Figaro et Le Monde évoquent l'affaire ce matin. Il s'agit d'un manuel de révision du bac, ou plus précisément trois manuels, dans lesquels les victimes du Hamas sont désignées comme des colons juifs. ce qui laisse entendre à la fois que tous les Israéliens sont juifs et qu'Israël occupe illégalement l'ensemble de son territoire. Les deux sont faux, évidemment. Le Hamas n'est pas présenté dans ce passage comme un mouvement terroriste et Israël est accusé d'avoir renforcé son blocus économique, il n'y en a jamais eu, et d'avoir provoqué ensuite une crise humanitaire de grande ampleur. Bref, tout le passage incriminé est non seulement faux, mais insane. La LICRA s'en est émue à juste titre mardi. Emmanuel Macron a dénoncé une falsification intolérable. Le ministre de l'Éducation a pris le relais. L'éditeur, le groupe Hachette et son PDG Arnaud Lagardère ont présenté des excuses et annoncé le retrait des manuels. Les ouvrages vont être détruits, indique le Figaro. Le Monde relève que leur publication remonte à 2024 et 2025, ce qui montre que le passage fautif n'a pas été repéré dès la publication.
Et qu'on lit pas beaucoup en classe, visiblement. Le ministère de l'Éducation nationale plaide qu'il ne s'agit pas à proprement parler de manuels scolaires.
Et c'est vrai, car ces manuels ne sont pas destinés au travail en classe, mais uniquement à la préparation du bac par les lycéens, précise Le Monde, qui parle donc de manuels parascolaires. Il n'empêche que les livres sont rédigés par des enseignants et font l'objet, en théorie, d'une double révision avant publication. Reste donc à savoir comment une erreur aussi grossière a pu se glisser dans un ouvrage à l'usage des lycéens dont l'édition a été coordonnée par un professeur d'histoire, écrit Le Monde. Parler d'erreurs, même grossières, relève de l'euphémisme. L'éditeur a promis une enquête interne, c'est le moins qu'on puisse attendre, ne serait-ce que pour s'assurer qu'on ne confonde pas les révisions d'histoire avec la révision de l'histoire.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et François-Olivier Gisbert que je salue à 8h45. Bonjour
François. Bonjour David.
Je vais commencer avec vous évidemment par l'Iran. Que vous inspire la situation là-bas et peut-être aussi la façon dont les Européens, la France, affrontent à leur façon ce qui s'y passe?
Bon, c'est pas terrible. Hein, c'est même atroce. Je veux dire, quand on voit, par exemple, quand on entend les responsables, notamment de l'extrême gauche, je pense à LFI, je pense aux escrologistes et aux autres, mais on voit bien qu'ils sont tous plus ou moins complices. Je dirais tout ça normal. Hein, je veux dire, comme si toute la gauche, enfin une grande partie de la gauche, s'était alignée sur les positions de notre grand intellectuel et grand économiste Sandrine Rousseau. Vous savez, il y en a qui le croient en tout cas, que c'est une grande économiste. Sandrine Rousseau qui disait à propos du malheur paysan, avec la compassion et le bonheur de la formule qu'on lui connaît, qu'elle n'en avait rien à péter. Eh ben, on pourrait... utiliser, disons, cette formule élégante pour qualifier, comment dire, la position d'une partie, une grande partie de la gauche, enfin de l'extrême gauche en tout cas, sur ce qui se passe en Iran. Pourquoi ? Parce que le peuple iranien est visiblement plus proche d'Israël que il pouvait l'être du Hamas et du Hezbollah, qui sont des créations de la République islamique d'Iran, et que le peuple iranien revient à la vieille tradition, qui était d'ailleurs celle du Shah d'Iran, et puis précédemment d'un grand personnage historique dont on parle assez peu en ce moment, mais qui a un rôle important, en tout cas en Iran, parce que c'est une grande civilisation. La civilisation perse, c'est évidemment Cyrus le Grand, qui, comme vous le savez, a autorisé les Juifs à retourner, qui avaient été déportés, à retourner en Israël pour reconstruire le temple de Jérusalem.
Les Juifs qui sont encore présents en Iran, dans une toute petite communauté.
Oui, et c'est pas terrible quand même.
C'est pas terrible, mais ils n'y sont pas persécutés pour leur croyance.
Oui, parce que les chiites là-dessus sont toujours, disons, contrairement à ce qu'on peut penser, sont toujours un peu plus tolérants.
Alors, est-ce que vous pensez qu'on va finir par intervenir, nous les Français, nous les Européens, sachant qu'il faut quand même être prudent, on peut pas être outrancier ou offensif vis-à-vis de l'Iran quand on a encore des otages qui doivent y être libérés?
Bien sûr. Et puis, de toute façon, dans l'affaire, c'est pas la France qui va jouer quelque rôle que ce soit. Ce sera, évidemment, une affaire américaine et israélienne, vraisemblablement, s'ils interviennent. Pourquoi ces citations de Trump? C'est vrai que quand les Américains interviennent, tout le monde leur reproche de bafouer le droit international, ce que fera sûrement, d'ailleurs, notre sinistre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, je crois que c'est ça son nom. Et quand les États-Unis n'interviennent pas, on leur reproche de laisser bafouer les droits de l'homme. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on peut dire que Donald Trump laisse faire.
Hein, c'est ça quand même l'histoire. Alors, tout ce qui se passe là-bas est juste répugnant, comme d'habitude. Sur le nombre des victimes, on n'a pas de sources sérieuses, parce que toutes les informations sont
bloquées
de partout. Mais ce sont vraisemblablement des milliers. On parle même, on entend le chiffre de 12 000, c'est peut-être même beaucoup plus. Il y a au moins 10 000 personnes qui sont arrêtées. Enfin, bref, il n'y a pas d'informations vérifiées, ce qui est d'ailleurs ce qui donne une excuse à une grande partie de la gauche française, de dire que elle attend les confirmations, bien entendu.
Alors, Donald Trump, vous en parlez, c'est la grande affaire depuis 24 heures avec l'Iran, c'est l'offensive, l'offensive commerciale de Donald Trump sur le Groenland. On l'entendait dans la revue de presse d'Avegatenio, il est prêt à offrir des centaines de milliards pour acquérir cette île danoise. Est-ce que vous pensez que ça va marcher ?
Je suis pas sûr. D'abord, c'est pas parce que le Danemark ne veut rien céder, mais il se passe, il y a un petit phénomène quand même. L'Europe serre les rangs. Hein, il y a même une guerre de communiqués entre Paris et Berlin. C'est l'Allemagne qui a gagné hier. Vous vous souvenez? Vous avez entendu? En annonçant 20 minutes avant la France qu'elle participerait, l'Allemagne, à une mission militaire européenne au Groenland. Bon, je pense que l'histoire n'est évidemment pas finie. Parce que ça fait longtemps qu'elle dure. Faut toujours le rappeler, ça fait longtemps que les États-Unis veulent récupérer le Groenland. Hein. Ils ont souvent essayé, ça a commencé en 1867, et plus récemment encore en 1946. Mais pour ça, il faut de l'argent. Bon, l'Amérique en a, c'est clair. Et du temps. Et Trump, là, il en a pas. Son mandat se termine dans 3 ans, et peut-être même d'ailleurs en novembre prochain, s'il perd les élections de mi-terme, c'est-à-dire de mi-mandat, bon, il sera quand même ce qu'on appelle aux États-Unis un président canard boiteux.
Une question, une question à Franz-Olivier Gisbert. Qu'est-ce qui est le plus payant aujourd'hui quand on a des Xi et des Poutine qui sont terrés et qui attendent et qui donnent du temps au temps, qui se taisent, dont l'activisme est certain, mais qui ne bougent pas sur tous les fronts? Et qu'est-ce qui est le plus payant par rapport à un Trump qui a ouvert quand même plusieurs dossiers à la fois? La guerre commerciale, le Venezuela, l'Iran,
c'est la
le Groenland.
C'est la différence entre les démocraties et les dictatures. C'est la force des dictatures. Les démocraties, y a toujours des élections qui arrivent et les dirigeants, ils sont peur. Ils ont peur du peuple, ce qui n'est pas le cas des dictateurs, qui ont rarement peur, sauf peut-être à la fin quand leurs palais sont assiégés. Et alors, cette affaire est intéressante parce que quand je dis qu'il n'a pas le temps, Donald Trump, je pense que l'affaire serait jouable, mais peut-être à ce moment-là faudrait-il attendre que le Groenland acquiert son indépendance. Pour l'instant, c'est juste un territoire autonome, donc il a quand même encore quelques liens avec le Danemark, mais imaginez qu'ils deviennent complètement indépendants. Bon, à ce moment-là, c'est vrai que les États-Unis, mais ça peut pas être Trump, ce sera beaucoup plus tard. S'il est indépendant, les États-Unis peuvent proposer 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, ça fait de l'argent. Il y a 56 000 Groenlandais. Et puis d'ailleurs, on n'est pas obligé de donner l'argent à tout le monde, mais ça peut faire vite 2 millions, 4 millions, 6 millions par Groenlandais. Vous pensez qu'ils vont refuser si on leur propose? Mais pour ça, il faut qu'ils aient l'indépendance, et ils n'auront pas l'indépendance tout de suite.
On a fait le calcul hier, alors je ne sais plus quelle somme on avait pris, mais on s'était dit, si les Groenlandais acceptent l'offre de
100
milliards...
Oui, et 100 milliards, c'est vraiment un prix bas, ça fait déjà 2 millions.
C'est 7 fois moins que l'estimation donnée tout à l'heure par Hervé. S'ils acceptaient 100 milliards, ça ferait, si on divise par 50 000 habitants, ça ferait 2 millions de dollars par personne.
Oui. Ouais.
À ce prix-là, vous dites oui, vous?
Je pense que tout le monde dirait oui. Tous les
gros. Vous défilez.
Oui. Je ne me défile pas.
Ouais.
Je pense que c'est la seule solution à un moment donné. Mais c'est pas une décision à moins qu'ils veuillent la force, utiliser la force.
Il y a quand même.
Je ne vois pas utiliser la force face aux Européens.
Mais il y a quand même un immense paradoxe dans la démarche de Trump, c'est qu'il est prêt à payer, soi-disant pour la défense des États-Unis, une somme colossale, tout en disant aux Européens, vous payez pas assez dans le cadre de l'OTAN.
Donc, à un moment donné, il faut qu'il se mette en cohérence avec lui-même. On termine. Justement.
C'est vrai qu'on n'a pas payé beaucoup historiquement. Enfin, non, regarde,
ça,
pays
ça
comme,
c'est une chose.
Il y a des pays comme l'Espagne, ils se gardent bien sur notre dos d'ailleurs, parce que la France, c'est vrai, elle dépense un peu pour la défense. Ah bah, mais enfin, elle pourrait dépenser plus.
Depuis les origines et notamment grâce au général de Gaulle.
Oui, grâce au général de Gaulle surtout. Oui,
parce qu'on parlait. Attendez, il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps. On va aller au restaurant. 24 restaurants de l'enseigne Kentucky Fried Chicken vont devenir 100% halal. Qu'est-ce que ça dit sur la France, sachant que tout à l'heure avec Hervé Gattegnaud, nous évoquions l'emprise de la malbouffe sur le territoire. Mais là, c'est presque culturel.
Alors, Kentucky Fried Chicken, c'est vraiment là pour le coup, c'est la malbouffe. Mais c'est pas l'affaire du siècle.
Il y a des gens qui adorent ça. Hein.
Ce n'est même pas l'affaire de la semaine. Mais c'est très intéressant par rapport à l'évolution que nous sommes en train de vivre. D'ailleurs, nous avons un président qui flirte volontiers avec le communautarisme. Parce que le sujet, c'est le communautarisme. Le communautarisme, il arrive en France. D'ailleurs, il est arrivé avec cette décision du président de la République de créer un haut commissariat à la diversité.
On en parlait lundi avec Luc Ferry.
Voilà. Bon, ça pue le communautarisme. Et le communautarisme, quand on voit les résultats au Royaume-Uni, franchement, ça donne pas envie. Mais bon, il y a toute une partie de la population qui va vers ça. Et qu'est-ce que c'est le communautarisme? Je vais vous lire ce passage absolument extraordinaire d'un livre de Yves Michaud, philosophe. De gauche. L'obsession de la bienveillance et du soin conduit à accepter toutes les différences pour peu qu'elles invoquent des excuses de la vulnérabilité, de la souffrance et de la minorité. Elle favorise alors les revendications communautaristes qui s'avancent masquées sous les dehors des plaintes.
Et j'ajouterais,
Yves Michaud dans Contre la bienveillance.
Et j'ajouterais, souffrez, vous serez médiatisé. Franz, je vous dis à la semaine prochaine, on va se quitter avec une curiosité musicale, c'est l'hymne du Groenland, curiosité d'actualité.
Vous écoutiez une rediffusion de la matinale d'hier.
Radio Classique. La musique avant tout.
Bonjour à tous. Nous allons donc parler ce matin de la suite française. Nous allons parler d'Irène Némirovski.
Grand dossier de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique.
Nous sommes à Issy-l'Évêque, un village entre le Morvan et le Charolais. Hein. Nous sommes à l'automne 1942 et dans une salle d'école, il y a deux petites filles qui sont là, qui essaient de rester concentrées. La vérité, c'est qu'elles ont l'esprit ailleurs. Elles pensent à leur maman qui a été arrêtée quelques semaines plus tôt et qui ne revient pas. Et puis on frappe à la porte et voilà que pénètrent dans la salle de classe des gendarmes qui appartiennent à la gendarmerie du Creusot. Le Creusot est pas loin. Hein. Et ils annoncent emmener Denise et Elisabeth Epstein. Les regards se tournent vers les deux petites filles qui se lèvent, qui sortent en silence. Et malgré les protestations de Michel, leur père qui lui aussi a été arrêté, qui explique aux gendarmes que ses filles sont françaises, qu'elles sont catholiques, rien n'y fait, les ordres sont clairs. Tous les juifs étrangers recensés en Saône-et-Loire doivent être rassemblés et transférés à Drancy, en région parisienne, et il n'y aura pas d'exception. Quand même, dans les couloirs de la gendarmerie du Creusot, il y a un officier allemand qui supervise le transfert. Il regarde Denise, qui est aussi blonde que sa propre petite fille, qui a le même âge. Il tire d'ailleurs de son portefeuille une photo de sa petite fille. Et puis, il se tourne vers la gouvernante des enfants, qui est là elle aussi, qui s'appelle Julie, et lui dit « Je vous donne 48 heures pour disparaître ». Le père, en revanche, lui, va être emmené. Avant de quitter la pièce, il embrasse ses filles et il donne à l'aîné sa valise. C'est une épaisse valise en cuir. Et il lui dit « Ne te sépare jamais de la valise. Elle contient le carnet de ta mère. » Et Denise va obéir. Elle va obéir pendant 60 ans. Pendant 60 ans, Denise ne va pas oser ouvrir le carnet de sa mère, couvert d'une écriture minuscule à l'encre bleue presque illisible. Elle a cru que c'était un journal intime, elle n'a pas eu la force de se plonger dans la mémoire de cette mère adorée qui avait été injustement arrachée à sa famille. Et ce n'est que à la fin du XXe siècle que Denise Epstein s'est décidée à regarder de plus près ce mystérieux carnet. Elle a compris que ce texte n'était pas un journal, en fait c'était un roman. Un roman commencé pendant la débâcle, donc au début de l'été, enfin en juin 1940, poursuivi sous l'occupation. Un roman pensé comme une espèce de fresque en plusieurs parties et qui est resté inachevé et qui s'appelle « Suite française ». Le livre en question a été publié en 2004. Il a eu un succès absolument considérable, 700 000 exemplaires vendus en France, hein, des traductions dans le monde entier, la critique a salué un chef-d'œuvre, et en novembre, et c'est un cas unique dans l'histoire du prix Renaudot, le prix Renaudot a été décerné à Irène Némirovski à titre posthume, non seulement à titre posthume, mais 62 ans après sa mort dans les baraquements d'Auschwitz. C'est un destin quand même assez inouï, assez singulier, et si vous voulez, on va revenir sur l'histoire de cette femme qui a eu un itinéraire lui-même en soi romanesque et éblouissant et tragique, bien sûr.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Je vous propose de revenir bien longtemps en arrière. On est à Kiev, le 11 février 1903. Ce jour-là, dans un appartement cossu, naît une petite fille qu'affectueusement on va appeler Iroshka. C'est la petite Irène. Son père est Leonid Borisovitch Nemirovski. C'est ce qu'on doit pouvoir qualifier de self-made man. Hein. Un homme parti de rien, parti d'un petit shtetl d'Elisavetgrad et qui est devenu un financier, un banquier. Et même un des banquiers les plus influents de l'Empire russe. La mère vient d'une famille juive aisée d'Odessa, elle s'appelle Anna Margulis. C'est une femme, comment pourrait-on dire, très mondaine, un peu futile, d'une grande beauté, obsédée par les petites affaires sociales, vous voyez. Elle a épousé Léonide pour grimper dans l'échelle sociale, mais disons les choses, elle n'a pas beaucoup d'affection pour sa fille. Et ça, c'est une blessure qui ne quittera jamais la jeune Irène, et qui, d'une certaine façon, va nourrir toute son œuvre. Alors, la petite Iroshka trouve refuge auprès de sa gouvernante, qui est une Française, qu'elle surnomme Zézel, ça vient de mademoiselle, hein, simplement. Dans mon enfance, elle représentait le refuge, la lumière. Je n'aimais vraiment qu'elle au monde, écrira-t-elle plus tard. Et c'est Zézel qui lui apprend le français, qui l'initie à la littérature française, et on doit pouvoir dire dès lors, à la littérature tout court. La famille Némirovski, à Kiev, vit dans une bulle dorée, disons les choses, mais fragile. Vous savez qu'il y a les grands soubresauts de 1905, hein, au moment de la guerre russo-japonaise, et avec la révolution de 1905, il y a des pogroms qui vont secouer la ville, comme à chaque fois que ça va mal en Russie, et la petite Irène, avec une croix orthodoxe au cou pour essayer de se protéger, pour se faire passer pour chrétienne, va être cachée derrière un lit par la cuisinière. Vous voyez que cet antisémitisme très menaçant, y compris pour les familles les plus riches, peut-être même d'abord pour elle, exister et a joué là aussi un rôle très important dans sa formation. À la fin de l'été 14, Léné Mirovski s'installe à Saint-Pétersbourg, qu'on va bientôt appeler Petrograd. La guerre profite au père d'Irène, parce que, comme toujours en temps de guerre, les gens qui prêtent de l'argent font des gros profits. Hein, et de son côté, Irène s'ennuie, alors elle fuit dans la littérature. C'est en fait dans la littérature qu'elle a toujours fui les déceptions familiales, disons les choses. C'est comme ça que sa vie s'est construite sans la littérature, fait-elle dire à celle qui est un peu son double dans le roman L'ennemi. Sans la littérature, elle serait tombée malade d'ennui. Les livres remplaçaient pour elle la vie réelle et elle dévore les classiques français. À cette époque, dit-elle, j'étais folle d'Edmond Rostand. Autant dire qu'elle ne lit pas seulement du roman, hein, elle lit aussi de la poésie et en l'occurrence du théâtre. Puis arrive la révolution, hein, la révolution russe de 1917 pour Léné Mirovski. C'est la fin d'un monde pour Irène, c'est la mort de celle qu'elle appelait Zézel, hein, avec tellement d'affection, et on peut dire que là, ça marque la rupture. Je cite Dominique Misica dans ce beau livre qu'elle vient de faire paraître, il s'appelle « Irène Némirovski, une vie inachevée ». Je cite Dominique. Le seul être qu'elle aimait comme une mère se suicide en se jetant dans les eaux glacées de la Moïka, effrayé par ce pays sans mesure. La mort de cette femme au cœur simple et dévoué sonne le glas de son enfance et c'est l'heure de l'exil. Janvier 18, la famille fuit la Russie, traverse en traîneau la frontière finlandaise. Elle a 15 ans, Irène, à l'époque, hein, j'ai peut-être oublié de vous le dire. En Finlande, à la faveur de l'ennui, Irène se met à écrire des contes et des poèmes en prose. Elle écrit en russe à l'époque. « J'ai commencé à écrivailler vers 15 ou 16 ans, dira-t-elle en 1935, pour le plaisir de comprendre d'autres vies que la mienne, et mieux encore, pour le plaisir d'en inventer. » Cette phrase est d'une beauté. Cette phrase, c'est le roman à l'état pur. Inventer des vies. Et ce qu'on appelle inventer des vies, parfois, est-ce que ça n'est pas essentiellement en recréer à partir de ce qu'on a pu sentir, vivre, éprouver, parfois même dans sa chair? La guerre se rapproche, hein, Léné Mirovski gagne la capitale, Helsinki, de là il passe à Stockholm, vous voyez cette vie d'errance, de fuite, toujours et entre-temps, le père d'Irène a réussi à récupérer une partie des actifs, ce qui permet de vivre très confortablement. À la fin de juin 1919, c'est le départ, la famille embarque, non pas sur un paquebot, mais à bord d'un cargo qui va l'amener à Rouen en 10 jours, et en juillet, depuis Rouen, c'était plus facile, on a remonté la Seine, hein, en juillet, ils sont à Paris. Et ça, pour Irène, ça n'est pas neutre, parce que Paris, c'était la ville dont elle rêvait depuis l'enfance. C'était la ville dont Zézel l'avait fait rêver. Irène, à 16 ans, elle a devant elle toute la vie. Elle ne sait pas encore que la France, ce pays qu'elle va aimer plus que tout, ce pays va la trahir 23 ans plus tard. On n'en est pas là. Pour l'instant, c'est encore l'âge et l'heure des découvertes. La mère juive, une mélodie traditionnelle interprétée merveilleusement par Itzhak Perlman, accompagné par l'Orchestre Philharmonique d'Israël sous la direction de Dov Seltzer.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
La guerre est finie à ce moment-là, on est en 1919 et Paris pense ses plaies, Paris se jette pour tous ceux qui ont survécu à la guerre dans une espèce de période de rattrapage. On vit passionnément, vous savez, ça va bientôt être ce qu'on appellera les années folles, et pour la jeune Irène qui a 16 ans, c'est un vrai éblouissement. Elle vit avec sa famille dans un grand immeuble du 16e arrondissement. Irène s'inscrit à la Sorbonne où elle va étudier les lettres, vous imaginez, et elle va avoir pas mal de elle va obtenir pas mal de licences. Elle se plonge avec délices dans cette vie parisienne dont elle rêvait, c'est le moment pour elle d'aller au c'est magnifique ce qui lui arrive, hein, parce qu'elle va au théâtre bien sûr, au cinéma. Bon, en 1919, le cinéma est un petit peu encore balbutiant, il ne parle pas bien sûr, et puis au casino où elle danse le tango, le foxtrot, le chimie, c'est toute la grande époque. Hein. Elle multiplie les aventures sentimentales, elle reçoit ses amis qui jusqu'à l'aube vont, viennent, chantent, crient. C'est que, explique-t-elle, la nuit dans une maison russe, personne ne songe à dormir. Oui, elle a importé avec elle ce cosmopolitisme, cette russité qu'elle mêle à la passion d'une culture française qui l'imprègne littéralement. Et puis, c'est un réveillon du jour de l'an, vous savez, le réveillon du 30, Saint-Sylvestre, le réveillon du 31 décembre 1924, qu'elle rencontre celui qui va changer sa vie, Michel Epstein, ou Epstein, comme on dit à l'époque à Paris. Il est russe comme elle, il est banquier comme son père, il possède une sorte de douceur qui va l'apaiser. Ils vont se marier en 1926, et on peut dire que c'est un beau mariage, un mariage d'amour, sincère et profond. Ils sont bien installés dans un immeuble moderne du 7e arrondissement. Irène, à partir de là, est libre. Vous imaginez à quel point tout a l'air de la conduire vers la réalisation d'une œuvre. Elle peut créer maintenant. Elle est devenue elle-même auteure. En 1925, elle adresse un premier roman qui s'appelle « Le malentendu ». À un éditeur, et puis vient L'enfant génial en 27, L'ennemi en 28. Autant dire qu'elle produit beaucoup, hein. Alors tout ça est bourré de références autobiographiques, évidemment, mais c'est en 1929 que va se produire le basculement, en quelque sorte le grand tournant, si vous voulez. Ça fait 4 ans qu'Irène travaille à un manuscrit puissant, cruel, d'une maturité saisissante qui s'appelle David Golder. C'est l'histoire d'un vieux banquier juif, un homme dur en affaires, rongé par l'argent et par une famille ingrate. Et elle raconte l'histoire de ce David Golder. Elle envoie le texte aux éditions Grasset. Pour éviter d'être identifiée, elle signe le manuscrit de son nom d'épouse et elle donne une adresse en poste restante. Vous voyez quand même qu'elle est assez prudente. Et c'est Bernard Grasset en personne qui va lire le texte et qui est littéralement foudroyé. Il veut absolument rencontrer cet auteur qu'il imagine être un homme déjà d'expérience, un vieux routier de la finance probablement, pour connaître aussi bien le milieu. Et il envoie des lettres et il ne reçoit aucune réponse. Alors il fait paraître une petite annonce dans les journaux, on recherche l'auteur de David Golder. Vous voyez comment se fait la publicité, même quand on la veut pas d'une certaine manière. Et quand Irène finit par se présenter dans le bureau de Bernard Grasset, l'éditeur n'en croit pas ses yeux. Il a en face de lui une petite jeune femme, toute frêle, là, assez élégante. Et c'est elle qui aurait écrit ces pages si âpres, qui ont quelque chose de balzacien. D'ailleurs, la critique va être unanime. On compare ce livre à un livre de Balzac. On salue le génie psychologique de l'auteur. Et quand on lui reproche sa peinture un peu caricaturale du monde juif, Irène répond « Ce sont les juifs tels que je les ai vus. Antisémite, moi, dit-elle, mais c'est absurde, je suis juive. Je n'ai jamais caché que j'étais juive. » Et elle ajoutera plus tard, « Pourquoi ne pas reprocher de la même manière à Mauriac d'avoir peint avec virulence la bourgeoisie bordelaise ?» C'est exactement ça, d'ailleurs, la comparaison est très juste. Irène va devenir cette grande romancière du Paris des années 30, et puis, évidemment, malgré les succès et son amour de la France et sa demande de naturalisation, eh bien, elle va connaître une grande déception. On est en 1935, la France refuse de la naturaliser. Pour l'administration française, elle va rester une étrangère. Et c'est un mot qui bientôt va avoir des conséquences absolument terribles.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et oui, on est en 39, le monde de nouveau bascule. Irène et Michel qui se sont convertis au catholicisme avec leur fille. D'abord pour essayer de s'intégrer, mais pour se protéger aussi, disons-le. Pensent être à l'abri derrière cette nouvelle religion, sauf que les lois anti-juives du régime de Vichy les frappent comme les autres. Michel ne peut plus travailler à la banque et pour Irène, être édité, ça devient impossible. Et en 40, elle écrit une lettre au chef de l'État français, au maréchal Pétain. « Je ne puis croire, monsieur le maréchal, que l'on ne fasse aucune distinction entre les indésirables et les étrangers honorables qui, s'ils ont reçu de la France une hospitalité royale, ont conscience d'avoir fait tous leurs efforts pour la mériter. » La lettre au maréchal Pétain va rester sans réponse. En 1940, Irène et Michel vont essayer d'aller se réfugier à Issy-l'Évêque. Vous me voyez venir, on est dans le Morvan, où ils vont rejoindre donc les deux filles, leurs filles, qui sont déjà sur place. Et c'est là, dans cette solitude forcée, qu'Irène entame son œuvre monumentale. Elle écrit sur ses petits carnets d'une écriture serrée pour économiser le papier. Elle pressent la tragédie à venir. Elle notait déjà en 38 « J'avais vu le moment où l'homme ne s'est pas dépouillé encore des habitudes et de la pitié humaine, où il n'est pas encore habité par le démon, mais où déjà celui-ci s'approche de lui et trouble son âme. Quel démon ! Tous ceux qui ont vu de près la guerre ou l'émeute le connaissent. Chacun lui donne un nom différent, mais il a toujours le même visage, hagard et fou. Et ceux qui l'ont aperçu une fois ne l'oublieront plus. » Et dans ce qui va devenir donc cette suite française, Irène dépeint la débâcle, l'exode, les débuts de l'occupation. Elle décrit tout ça d'une manière saisissante. Le 11 juillet 42, dans une lettre à André Sabatier, qui est son directeur littéraire, elle écrit « J'ai beaucoup écrit ces derniers temps. Je suppose que ce seront des œuvres posthumes, mais ça fait toujours passer le temps. » Terrible phrase. Deux jours plus tard, et c'est Dominique Missica qui le raconte, je la cite, « Deux gendarmes frappent à la porte de la maison. Venus du Creusot, ils tiennent à la main un mandat d'amener pour Irène Epstein. Une banale opération de contrôle, disent-ils. Dans le jargon administratif, il s'agit d'un ramassage mené par des gens qui font leur travail avec une conscience professionnelle qui ne se démentira pas. Le couple et Julie, la gouvernante, s'enferment dans une pièce. Les gendarmes patientent, puis les petites filles que la cuisinière avait emmenées dans leur chambre au premier étage redescendent. Leur mère, le visage blême, une petite valise à la main, leur dit « Je pars en voyage pour quelques jours. Allez, soyez sages. À Denise, veille bien sur ta petite sœur. » Dans un coin, la cuisinière pleure. Les quatre membres de la famille observent un moment de silence, vieille coutume russe, quand quelqu'un part seul. Puis Irène embrasse ses filles. Un des deux gendarmes lui propose de prendre plus de temps. Irène leur répond « Un adieu suffit. » Michel va remuer ciel et terre pour sauver sa femme. Mais il n'y arrive pas. Le 19 juillet 1942, Irène arrivera à Auschwitz avec 809 hommes et 119 femmes, dont 24 adolescents de 12 à 17 ans, 928 malheureux. Irène Némirovski ne reviendra pas d'Auschwitz quatre mois plus tard. C'est Michel qui est arrêté à son tour, déporté. Il sera gazé dès son arrivée à Auschwitz. Ne reste donc que Denise et Elisabeth, les deux orphelines, qui fuient de cachette en cachette avec cette épaisse valise de cuir. Elles ignorent que, dans les pages couvertes de cette écriture minuscule, leur mère a laissé un témoignage immortel. Il va donc falloir 60 ans pour que le monde découvre suite française et pour que justice soit rendue à celle qui aurait tant voulu l'être française.
Vous écoutez Radio Classique. La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
5h58 sur Radio Classique, très bon réveil. Soyez les bienvenus dans la matinale de l'économie. Après deux mois et demi de négociations et de débats sur le budget 2026, il n'y aura plus de discussion à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Le gouvernement a annoncé cette nuit l'annulation des débats qui devaient avoir lieu aujourd'hui et lundi. Et s'apprête finalement à passer en force. La ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, a confirmé que deux options étaient désormais sur la table. Une ordonnance budgétaire ou l'utilisation de l'article 40. 49.3 de la Constitution. Nous allons y revenir évidemment largement ce matin dans nos différentes éditions. Un chiffre également qui va sans doute vous intéresser. Un Français sur deux voudrait changer de travail en 2026. C'est le résultat d'une enquête YouGov réalisée sur un large échantillon de 50 000 personnes. C'est un peu surprenant comme résultat dans le contexte économique actuel puisque les salariés généralement ont tendance à moins prendre de risques lorsque l'environnement économique est plus fragile. Nous vous expliquerons ce chiffre juste avant le journal de 7h avec l'invité du chiffre du jour, la météo. Avec Lénaïque Monnier, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
La pluie arrive.
Oui, et sur les Cévennes en particulier, le pays qui sera sous les nuages avec quelques pluies à signaler également sur le sud-ouest et le centre. L'après-midi va rester maussade et les pluies vont s'étendre au Massif central et à la Côte d'Azur. Les températures 10 degrés à Nice ce matin, 8 à Paris, 6 à Toulouse et 7 à Lyon. Cet après-midi, vous aurez 13 degrés à Biarritz, 10 à Tours et Brest et 9 à Lille.